ici même, les nouveaux chemins de la connaissance à la Maison de Radio France avec Raphaël Antoven.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Suite et milieu ce soir d'une semaine entière en compagnie de l'éditeur, historien et académicien Pierre Nora et de ceux qu'il a connus et aimés. Hier avec vous Pierre Nora, on parlait de René Char, demain on parlera de François Furet, aujourd'hui c'est du philosophe Jean-François Revel que nous allons parler.
Et quelque chose à quoi on ne songe jamais assez souvent, quand on dit à quelqu'un « vous avez changé », c'est que le monde aussi change.
Ouais.
Je veux dire que vers 1960-65, il était encore raisonnable, disons par exemple, de parier sur une certaine démocratisation en Union soviétique. Il était encore raisonnable de parier sur la libéralisation du Parti communiste français. Il était raisonnable de parier sur la réussite de certaines expériences dans le tiers-monde, comme Cuba par exemple, ou la Tanzanie, ou l'Algérie. Il était raisonnable de penser que l'autogestion yougoslave avait encore une chance de s'en sortir, que l'expérience chinoise méritait l'intérêt. Bon. Depuis ces dates, toutes les expériences que je viens de citer ont sombré dans une faillite noire. L'URSS a envahi Prague, la Pologne se décompose, on y meurt de faim, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas un individu qui change, c'est un individu qui tire la leçon des événements. Vous comprenez, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui vivait au XVIIe siècle, « Ah ben, je remarque qu'en 1600, vous étiez persuadé que la Terre était immobile et qu'en 1632, vous voyez maintenant qu'elle tourne. » Alors vraiment,
Vous avez changé,
vous êtes une girouette. Je dis, oui, non, dans l'intervalle, il y a eu Galilée, je m'excuse, n'est-ce pas? Tout est là.
Bonsoir Pierre Nora.
Bonsoir Raphaël Antoven.
Bienvenue de nouveau sur France Culture pour évoquer ce soir la figure de Jean-François Revel. Jean-François Revel répond ici au micro de Jacques Chancel à ceux qui lui reprochent d'avoir changé finalement de conviction, d'avoir été de gauche et puis ensuite d'être par anticommunisme passé à droite. Et il répond que ça n'est pas lui qui change, mais son époque. Est-ce qu'il y a là quelque chose de ce qu'on peut appeler la souplesse de l'intellectuel dont vous parliez avant-hier à propos d'Elias Canetti justement, Pierre Nora?
Oui, encore que je crois que Jean-François a beaucoup changé, et lui-même, c'est vrai. C'est pas faux, et que cette manière de le renvoyer au monde extérieur est une forme de dénégation de son propre changement à lui. Mais si vous voulez qu'on parle de Jean-François Revel, que j'ai beaucoup aimé, qui est un ami très cher, dont je pleure la perte, c'est pas ce Jean-François-là dont je voudrais parler, et qui m'a été vraiment le plus proche. C'est le Jean-François de notre jeunesse un peu folle, à lui, à moi, et qui a presque une date, puisqu'il en parle dans la deuxième page de ses mémoires, en mars...
L'épisode du Jokari.
Du Jokari, que je faisais avec lui à Courchevel, mais il date
en 53.
De notre rencontre de mars 1953. En fait, l'amitié intime, je peux dire, que j'ai eu avec Jean-François pendant plusieurs années à ce moment-là, elle est très étroitement liée à un autre personnage entre nous qui est mort en 88 et qui s'appelle André Fermigier, qui a été historien d'art, dont j'ai publié des écrits qu'il n'avait jamais publiés, des chroniques qu'il avait fait dans l'Observateur sous le nom Chronique d'humeur, des chroniques d'urbanisme sur la bataille de Paris que j'ai publié aussi, et un remarquable livre de chroniques d'art préfacé par Françoise Cachin sur la bonne et la mauvaise peinture. Et ce qui était un homme dont je tiens à saluer vraiment l'intelligence, l'humour, la culture, c'était une sorte de Proust dans l'œuf avorté à beaucoup d'égards, homosexuel pour tout dire, et c'est par lui que j'ai connu Jean-François. Et la manière même dont je l'ai connu est assez amusante, parce que André Fermigier était, bon, n'ose pas dire un peu amoureux de moi, mais enfin ça revenait à ça quand même. Enfin, j'avais une grande, il avait 7-8 ans, 9 ans de plus que moi. Je devais être en Hippocagne et lui devait être en professeur déjà à Florence. Il venait de passer l'agrégation et je me souviens très bien qu'il était venu me voir. C'est assez amusant en me disant, écoute, je suis obligé de te laisser parce que je dîne avec un de mes amis qui est à Florence, j'ose pas te demander de venir, parce qu'il est un peu lourd, il est un normalien, tu sais, un peu au bas des pâquerettes. Enfin, écoute, viens quand même, tu m'aideras à passer la soirée.
Et mais il vous présente Jean-François Ricard.
Et il me présente Jean-François Ricard, dans les bras de qui je tombe, qui ne savait d'ailleurs pas où dormir parce qu'il passait, etc., que j'ai ramené dormir à la maison, si vous voulez, et on ne s'est pratiquement plus quitté. Et on a fait, Jean-François, André, moi, une espèce de trio infernal, si j'ose dire.
Pourquoi infernal?
Enfin, infernal, parce que c'était deux personnalités très fortes, dont, au fond, qui se disputaient un peu, et moi j'étais entre les deux, j'étais le punching ball, parce que Jean-François
était... Il se disputait entre eux ou il se disputait votre affection?
Il était très possessif. Et le Jean-François, donc, que j'ai connu, il était maigre, il avait des cheveux, il était anarchiste, hyper cultivé, maladif.
Il faut rappeler qu'on est à l'époque, il est encore à la FGDS, la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste.
Mais il est rien du tout.
Avec François Mitterrand.
Mais non, il n'y a pas de François Mitterrand dans le coup. On est en 53, 58, 50, c'était jusqu'à De Gaulle. Il était férocement, surtout anti-gaulliste, et il avait... écoutez, c'est le Jean-François qui n'avait pas encore écrit un mot, sauf que à Florence passe un type de chez Julliard, dont je me souviens plus du nom, et Jean-François lui confie un petit roman qu'il avait écrit, qui s'appelait Histoire de Flore, qui est le récit à travers sa femme avec laquelle il voulait plus vivre et qui est une femme, qui est toujours une femme extraordinaire, un peintre, qui vit dans un ashram, Yann Le Toumelin, la sœur du Le Toumelin qui a fait le premier voyage dans une barque en Amérique, bande des Bretons fous, si j'ose dire, et Jean-François qui, quand je pense que ce monstre de rationalisme a vécu avec cette femme qui était disciple de Gurdjieff, à l'époque, et que, donc c'est le récit, histoire de Flore, c'est le récit de son histoire avec Gurdjieff, puisqu'elle l'a attiré dans le milieu Gurdjieff. Et puis à partir de là, il a commencé à écrire, en 5 ou 6 ans, une série de livres éblouissants, qui étaient, Pourquoi les philosophes, Contre-censure, Sur Proust, Pour l'Italie, c'est-à-dire probablement de 54 ou à 59 ou 60, la révélation d'une sorte de génie de la pétarade intellectuelle dans tous les azimuts. Je me souviens de la première phrase, je crois, du style général qui venait d'arriver au pouvoir en 58. La phrase est très drôle. Le général de Gaulle a raison de se prendre pour la France, il a tort de croire que ça l'honore. Bon, c'est une phrase magnifique.
Il avait le sens de la formule. Depuis le temps que la France rayonne, je me demande comment le monde entier n'est pas mort d'insolation.
Voilà, des choses comme ça. Alors, il était comme ça, et je me souviens, puisque lui devait devenir un jour le directeur de l'Express, d'un article qui devait être fait sur l'histoire de Flore. Et comme il savait que je connaissais Jean-Jacques Servan-Schreiber, que je, mon frère dont on a parlé, tout ce monde,
Simon Nora,
etc., oui. Simon Nora, que moi-même j'écrivais pour François Herval, qui devait plus tard diriger la collection Idées chez Gallimard, des comptes rendus à une époque où à l'Express on ne signait pas, et où je lui pissais la copie, si j'ose dire, ce qui lui rendait service. Jean-François m'avait demandé d'aller voir au marbre de qu'est-ce qu'on disait sur lui.
Et il vous avait demandé d'aller voir ce qu'il y avait dans l'article.
Oui, il est venu avec moi jusqu'en bas. C'était l'époque où l'Express était encore sur les Champs-Élysées, où il est resté dans un café pour commencer à boire un coup, parce que, comme vous savez, Jean-François commençait à fréquenter la bouteille.
Pardonnez-moi, j'ai fait une toute petite parenthèse. On lui prête cette phrase, on dit que sa vie a changé le jour où il s'est aperçu que dans le homard mayonnaise, c'était la mayonnaise qu'il aimait. Vous confirmez cette phrase?
Ça, je ne sais pas, j'en sais rien, je me souviens pas. En tous les cas, je me souviens de Jean-François en bas sur les Champs-Élysées, ivre de peur de ce qu'on allait lui dire.
Et ivre tout court, d'ailleurs. Enfin,
oui, ivre tout court. Et moi, mon temps pour essayer de voir ce qu'on pouvait dire de son livre. Eh bien, quand on pense qu'il devait devenir plus tard le directeur de ce journal, il n'osait pas, c'était un espèce d'anard. Alors, il avait, mais un homme qui, un grand vivant, qui aimait la culture, les voyages, la bouffe, l'amour. Je me souviens à propos d'une femme, par exemple, dont on parlait, et j'avais dû lui dire, mais enfin, quand même, cette femme, elle est très excitante. Et avec, comme ça, il m'avait dit, j'ai pas besoin d'être excité, j'ai besoin d'être satisfait.
Il y a des styles qui vous portent comme la vague porte le canot. Ainsi Proust, même quand il expose des idées complexes, c'était la façon qu'il avait aussi de, c'était la façon aussi qu'il avait d'aimer la simplicité. Dans Sur l'Italie, il vante justement l'aptitude de chez Proust à faire simple, même quand il expose des idées complexes. Et dans son livre sur Proust, il dit ceci. Proust veut voir les phénomènes tels qu'ils sont. Il les croit profondément tels qu'il les voit, on pourrait presque dire tels qu'il les reçoit. Car son inattention dans un dîner aux événements pour lui superficiels qui captivent les frères Goncourt est la condition d'un état de réceptivité aux faits qui, à ses yeux, sont seuls importants et dont la perception lui donne la certitude de toucher à la réalité telle qu'elle est en elle-même.
Alors écoutez, puisque vous parlez là du surpoids, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que ce est un livre très étrange, dont une petite partie, le premier chapitre, est extraordinaire parce qu'il fait passer le Proust, le psychologue introverti bergsonien, comme un œil qui voit le monde extérieur avec une acuité extraordinaire, l'enregistre et donne comme preuve d'ailleurs la justesse des paroles qu'il met dans la bouche de ses personnages, et comme si c'était un romancier vraiment de la vision extérieure, un romancier de l'extérieur au lieu d'être un romancier de l'intérieur.
Il parle de ces brèves séquences, dit-il, voilà, qui se suffisent à
alors
elles-mêmes.
Alors ça c'est très bien. Et puis quand vous lisez la deuxième ou troisième chapitre, vous retrouvez le Jean-François qui était encore marxiste. Tout simplement marxiste, et qui voit Proust en descripteur, enfin, du monde de la bourgeoisie supérieure et de l'aristocratie.
Il dit ceci, il dit, je le cite, pour qu'on ait en tête.
C'est complètement idiot, si j'ose dire.
Il ressort de la recherche, donc c'est Revel qui écrit,
oui,
que l'oisiveté et l'argent n'affinent pas le goût, mais au contraire, forcent contre leur goût à s'occuper, voilà, d'art. Quantité de malheureux qui, sans nécessité de sauver la face, n'eussent jamais été condamnés à ce supplice et auraient du même coup épargné à autrui celui de les écouter.
Voilà. Alors, moi, je voudrais vous dire la deuxième chose, c'est que je me souviens de Fermigier, qui était très comme ça.
Qui est le dédicataire du Proust, hein, d'ailleurs.
Un personnage un peu à la Charlus dans Proust, et qui m'avait dit le premier soir, écoute, Jean-François, il a quand même une vertu dans sa lourdeur, il m'écoute.
Donc, et puis il lui avait dédié le Proust, hein, surtout.
Ben, il pouvait. Parce que c'est Fermigier qui lui avait fait lire Proust, comme c'est Fermigier, je reconnais, comme c'est pas du tout pour dire que, mais que Jean-François était un homme qui buvait en quelque sorte le monde extérieur. Est-ce qu'on pouvait lui dire de la même façon que pourquoi les philosophes, il me l'a un peu dédicacé à l'époque en me disant à Pierre qui écrit sous le nom de Jean-François, il dédicaçait le sur Proust à juste titre et le pour l'Italie, n'en parlons pas. Le pour l'Italie, c'est Fermigier qui l'a initié. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Italie et que je vous parlais de notre jeunesse folle, je me souviens d'être allé les retrouver tous les deux à la pension Berchielli à Florence, et on a pris une voiture et on a commencé à voyager. C'était, il faut se dire, c'était dans les années 50, hein, à une époque où Montepulciano était moins touristico connu, et où on a passé de nos petits restaurants devant la basilique de Montepulciano des découvertes, des heures inoubliables d'initiation à l'art italien, à la merveille de dériver dans la campagne florentine avec lui. Donc voilà, c'est un peu ça pour moi, Jean-François. Alors, qu'il ait pu ensuite être, si vous voulez, ce pro-américanisme délirant, le premier livre...
Vous diriez délirant, son pro-américanisme ?
Un petit peu... Bien sûr, c'est un excellent esprit. Bien sûr, j'ai aimé tout ce qu'il a écrit. Encore que je me souviens que notre discussion revenait chaque fois après chacun de ses livres et revenait au fond à une seule phrase. Il y a un seul objet. C'est tu décris merveilleusement pourquoi toutes les révolutions échouent, mais tu n'expliques jamais pourquoi il y a des gens pour continuer à vouloir en faire. Et ça tournait autour de ça, nos discussions de fond.
Si tous les gens qui se disent de gauche étaient vraiment de gauche, l'humanité serait sauvée depuis très longtemps. N'est-ce pas, la justice régnerait, car comptez le nombre de tyrans qui se classent à gauche, qui se réclament du socialisme, n'est-ce pas ? Mais en réalité, je pense que il y a une chose qui est fondamentale. J'avais écrit d'ailleurs dans un livre qui est paru en 68, mais avant les événements de mai, qui s'appelait « Lettre ouverte à la droite ». Je crois que tout pouvoir est naturellement de droite. C'est-à-dire que tout pouvoir tend à devenir excessif. Et d'ailleurs que tout individu doté d'un pouvoir s'enferme dans une logique où il lui est très difficile d'admettre qu'il peut avoir tort, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi il faut des contre-pouvoirs.
Tout pouvoir est naturellement de droite, Pierre Nora, et en même temps, il disait, je n'ai pas combattu le communisme au nom des idées libérales, je l'ai combattu au nom de la dignité humaine. Il pensait contre lui-même, Revel, malgré tout.
Oui, à beaucoup d'égards. Mais au fond, puisqu'on parle de lui, et j'allais dire de moi, je voudrais lui rendre un hommage plus personnel, et qui va beaucoup plus loin. Parce que je lui dois, probablement, d'avoir écrit le petit livre qui s'appelle « Les Français d'Algérie ».
C'est à Revel que vous le devez ?
Ben oui, je vais vous raconter comment. Je l'ai commencé le soir de la manifestation du 27 octobre 1960, qui était la première des grandes manifestations de l'UNEF sur la guerre d'Algérie. Et c'est là où j'ai connu Jean-François. Je vais vous raconter d'un mot comment. Je revenais d'Algérie, où j'avais été prof, envoyé en 58, et après l'agrégation. Et donc j'étais revenu en 60 et j'avais fait dans l'Observateur... l'ancien observateur, une double grande page qui s'appelait « J'étais professeur en Algérie ». Et là-dessus, Banif du 27 octobre, et là-dessus, Christian Bourgois, qui vient de mourir et que j'ai connaissais un peu, c'est avec Revel qu'on s'est retrouvé chez quelqu'un qui devait devenir ma femme et qui est connu depuis, bien qu'elle ne soit plus ma femme, qui est Françoise Cachin, qui habitait boulevard Saint-Michel. Et après la Banif, on s'est tous retrouvés là. Et Bourgois m'a dit qu'il avait lu cet article et qu'il sentait que j'avais beaucoup plus à raconter. Il venait d'entrer lui-même chez Julliard et il me poussait. Et Jean-François m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un petit livre et on va le faire ensemble. Parce qu'il avait été en Algérie, il le raconte dans ses mémoires, en 1948, qui est le premier des dérapages des élections en Algérie. Et le gouverneur général était Nejlène, et les élections avaient été tellement truquées qu'on parlait d'élections à la Nejlène pour caractériser ces élections toujours truquées. Alors, Jean-François avait connu l'Algérie en 48, et moi donc en 58. Et il me dit, bah, écoute, faisons un petit livre à deux. Moi, je fais l'Algérie 48, toi, tu fais l'Algérie 58, on y va. Et donc, dans l'exaltation, je rentre à la Fondation Thiers, où je venais d'entrer, et je commence mon chapitre. Et je l'envoie à Jean-François, pour qui... Et il me dit, écoute, ça part tellement bien, tu le fais tout seul. Et ça va être formidable, et etc., etc. Et
il m'avait... Est-ce qu'il n'a pas déguisé une paresse en générosité ?
J'en sais rien, mais en tous les cas, il m'a rendu service. Et donc, voilà... Alors donc les Français d'Algérie sont nés comme ça et
les pieds noirs vous ont reproché ce livre, Pierre Nora.
Oh bah plus qu'un peu.
Oui, c'est peu de le dire, mais enfin je vous laissais le soin de.
Oui,
sauf que
les enfants des pieds noirs l'apprécient beaucoup et souvent m'écrivent. Il est complètement épuisé aujourd'hui, comme le sujet et comme l'auteur. Mais
peut-être il faut rappeler en un mot pourquoi on vous a reproché ce livre, son contenu, sa teneur, ce que vous disiez.
Eh bien parce que c'était le premier, si vous voulez, qui typifiait une population, c'est un livre d'ethnologie, si j'ose dire, le mot même a quelque chose d'insolent vis-à-vis d'une population qui, à ce moment-là, était tout simplement nos compatriotes d'Algérie.
Et qui avait le désir de France.
Hein. Qui avait un désir de France. Et donc, le titre que j'avais donné, Les Français d'Algérie, était symétrique au titre que venait de donner à son livre, Jules Roy, La guerre d'Algérie, qui paraissent des titres banal, mais qui à l'époque avait un pouvoir de nomination, puisque du temps du livre de Jules Roy, on ne parlait que des événements d'Algérie. Dire la guerre d'Algérie était typifier ce qui était en train de se passer sous un autre statut. Et appeler mon bouquin « Les Français d'Algérie » étaient du même ordre. Ça voulait dire qu'il y avait une population qui entretenait un rapport spécial à l'Algérie, à eux-mêmes, à la terre, à la France. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup le dernier chapitre que j'ai fait au moment où du premier Évian, c'est-à-dire parce qu'il a fallu le faire très vite là pour le premier Évian, c'est-à-dire mars 61. D'où est sorti l'OAS. Donc, au fond, c'était avant l'OAS que j'avais écrit ce petit livre. livre. Et au fond, l'idée du livre, c'est ils se conduisent comme ça, parce qu'ils sont en situation complexe et quasi coloniale, qui reviennent tous à Paris, il se passera rien, et on est tous des Français d'Algérie, on aurait été comme eux si on avait été là-bas aussi.
Et c'est ça qui semblait impardonnable?
Ce qui semblait impardonnable, c'était une violente condamnation de l'Algérie dite libérale, à laquelle travaillait le plan de Constantine de Gaulle et évidemment l'héroïne de l'affaire qui était Germaine Tillon. Or j'avais fait même un chapitre, il fallait être gonflé de jeunesse, polémique contre Germaine Tillon, qui d'ailleurs m'a répondu très longuement dans l'Express à l'époque, et qui tient à ce qu'elle m'a répondu puisqu'elle l'a inséré dans ses morceaux choisis en quelque sorte. Et on avait eu donc avec elle. Alors c'était très viol. Il y avait un chapitre quand même sur Camus, très ambigu, très complexe, et qui continue d'ailleurs à être cité dans les explications de l'étranger, où j'expliquais que le geste du héros de l'étranger Meursault, tirant sur un arabe, Meursault, sous le soleil, sans savoir pourquoi, était l'inconscient de tous les Français d'Algérie.
Mais dans l'étranger, dans l'étranger de Camus,
Camus exprimait au fond tout libéral qu'il était, l'inconscient de tous les Français d'Algérie.
On a même d'ailleurs reproché à Camus d'avoir dépeint les Arabes toujours de profil dans toutes ses œuvres.
Oui.
Mais dans l'étranger, ce qui est encore plus énigmatique au moment de l'assassinat, donc ces quatre coups frappés sur la porte du malheur qui close la première partie de l'étranger, sous le soleil qui le rend fou et qui le brûle. Mais pour revenir au méridien de René Char, de l'ami de Camus, René Char, ces quatre coups, ce qui est très frappant dans le geste de Meursault, c'est qu'il tire sur un cadavre. Il le tue, et après il lui tire dessus.
Oui. Oui, je crois que c'est surtout l'hystérie meurtrière. Là, alors j'avais essayé de donner une sorte d'explication, il révélait l'inconscient de tous les Français. Ah, évidemment, taper contre Camus, taper contre Germaine Tillon, taper contre l'Algérie qui paraissait la seule pour laquelle il fallait se battre, qui était l'Algérie libérale, en disant, et c'était un livre de colère et d'impatience devant l'enlisement de la France dans un conflit qui n'en finissait pas, et pour lequel je pensais qu'il fallait trancher. Et je me souviens de Fermigier, précisément, au moment dont je parlais tout à l'heure à propos de Revel, que Fermigier m'avait dit, si c'est pour faire de la glu sentimentale vis-à-vis des Français d'Algérie, enfin de vis-à-vis de la guerre, c'est pas la peine. Il faut que tu deviennes du Montesquieu. Je me souviens de sa formule, implacable. Eh bien, voilà, je pensais qu'il fallait trancher le lien ombilical, que tout redevenait possible à partir de ce moment-là, peut-être, mais qu'il fallait commencer par accorder l'indépendance.
Je crois qu'il y a une seule règle, c'est la vérification de l'information. Le fait de publier des rumeurs non contrôlées n'a jamais été considéré comme étant un bon type de presse, n'est-ce pas ? Maintenant, il est sûr que dans un régime extrêmement personnalisé, n'importe quelle rumeur concernant la personne du président est de nature à être amplifiée par la rumeur publique. Mais il est évident que la presse elle-même doit faire preuve d'une autodiscipline considérable. Je pense qu'elle ne doit jamais hésiter à imprimer quelque chose qu'elle a vérifié et qui est vérifiable, mais que, inversement, si vous voulez, les gens du pouvoir ont beaucoup trop tendance immédiatement à crier au complot, au bobard répandu par des adversaires politiques peu scrupuleux, etc., etc. Ça, ce sont les inconvénients d'une presse libre. Vous ne pourrez jamais l'empêcher. Vous savez, depuis qu'on a inventé l'imprimerie, il s'est imprimé des millions de livres, et il n'y en a pas un centième partie qui sont aujourd'hui lisibles. Il faut accepter, on est dans un certain système, vous devez accepter les aspects négatifs. Et il n'y a que la permanente autocorrection professionnelle. Après tout, le métier de journaliste est un métier, c'est une profession, on doit obéir à certains critères. Et là, il est certain qu'il faut appliquer ces critères de façon très rigoureuse.
Étonnante intervention de Jean-François Revel, qui semble mettre en garde Éric Routier contre la publication d'un texto imaginaire et dont il n'a pas vérifié les sources, comme mettre en garde d'ailleurs le président de la République contre la façon dont il réagit justement à la publication de ce texto. Jean-François Revel était un homme qui, on l'a dit, hein, pensait constamment contre lui-même, bien aura, et qui avait par ailleurs un sens aigu de l'injure, de l'insulte. Il parlait des primates vociférateurs et casseurs de l'antimondialisation en déshérence de maoïsme. Il parle de Marchais, Georges Marchais, borné, brutal, vaniteux, dissimulé, qui comme dirigeant du PC fut un despote et vis-à-vis de Moscou, un esclave. Ce sens de l'injure fait de lui finalement plus un pamphlétaire qu'un philosophe, non ?
Oui, on va philosophe. Vous savez, c'était un homme multiple, lui aussi. Il faut pas oublier qu'il a fait une anthologie de la poésie française. Il faut pas oublier qu'il a fait des chroniques d'art qui sont peut-être son meilleur livre, qui s'appelle L'œil et la connaissance. Il faut pas oublier qu'il a fait un livre sur la gastronomie, Le festin en parole. Son histoire de la philosophie n'est certainement pas le meilleur livre qu'il a écrit, à mon
non,
avis.
Non, mais c'est pas mal quand même.
C'est pas mal, mais il a cette espèce de culot intellectuel. C'est un grand journaliste en même temps. Alors, il est un grand éditorialiste. C'est lui qui m'a appris, si j'ose dire, moi j'ai pas eu l'occasion de mettre ça en pratique, que un éditorial c'était une idée, un fait, un point, c'est tout. Il fallait absolument pas faire des éditoriaux. Pour lui, à l'agent Daniel, c'est-à-dire qu'il faisait du violon sur son moi. Et il fallait absolument taper comme ça. Il se moquait de moi infiniment sur René Char, dont on a parlé hier, qui pour lui c'était un faux poète. Il jouait au poète. Et lui qui a fait une anthologie de la poésie, mais une anthologie très partiale, puisqu'il n'y a pas Péguy, il n'y a pas Aragon, parce qu'il détestait font le nationalisme. Il détestait tout ce qui était enflé. Il y avait quelque chose de très stendhalien chez Jean-François.
C'est pour ça qu'il n'aimait pas le marxisme. Naturel. C'est pour ça qu'après avoir été marxiste, il a vomi le marxisme au nom de sa pesanteur, justement.
Certainement.
Il parlait de ce surmoi marxiste de la gauche.
Et de son esprit de système. C'était un philosophe qui n'était pas esprit de système et à beaucoup d'égards. Alors, voilà, moi, ce que j'aimais chez lui, c'était le tout. C'était sa vitalité intellectuelle. C'était cette voix métallique et qui pouvait avoir sa culture. C'est un homme de très grande culture avec lequel vous pouviez vraiment ne pas vous ennuyer dans la conversation permanente.
Quand on entend encore la semaine dernière le ministre de la Culture défendant son budget à l'Assemblée nationale, budget dont je me félicite qu'il ait été augmenté, qu'il ait été doublé, c'est très bien, bravo, j'applaudis. Mais quand il dit que la culture française sort de décennies, de siècles d'oppression. Alors, il faut croire que la culture française n'a pas existé. Non, il n'y a pas eu de grands écrivains. Je ne sais pas quel député socialiste, d'ailleurs, quand on faisait remarquer que les motions, enfin les amendements, les textes déposés par le groupe socialiste étaient écrits dans un abominable jargon, et que c'était quand même étrange pour un groupe parlementaire qui comptait autant de professeurs, a répondu la culture bourgeoise, je m'assois dessus. Bon. Alors quoi, Flaubert, parce que c'est la culture bourgeoise, non? Flaubert et Balzac aussi, et Proust aussi, c'est la culture bourgeoise, et Baudelaire aussi, c'est
la
culture
bourgeoise. Mais vous ne pensez pas, Jean-François Revel, que ce sont simplement les ventes de la politique, et que c'est la politique qu'il faudrait mettre au banc les accusés, parce qu'elle permet justement de dire tout et n'importe quoi.
Mais la politique parce conçue qu'on ainsi, mot, ça c'est une conception de la politique qui est, il me paraît, avoir des tendances antidémocratiques, c'est-à-dire, en quelque sorte, considérer que l'arrivée au pouvoir du parti auquel on appartient est une sorte de véritable rédemption, de salut, au sens religieux du terme, et que les autres ne sont pas simplement des gens à qui l'on donne tort, ce qui est tout à fait normal quand on a une conviction, mais des gens qui représentent l'esprit du mal. Alors là, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans le système du salut et de la damnation.
Merci Pierre Nora d'avoir évoqué avec nous la figure amicale pour vous de Jean-François Revel. On se retrouve demain pour évoquer celui qui fut peut-être votre ami le plus cher. Je dis peut-être, mais c'est certainement le cas d'ailleurs, François Furet. Je signale que sur Internet, il y a un site d'hommage à Jean-François Revel, qui s'appelle cherrevel.net, qui est un site formidablement réalisé. Et de Jean-François Revel, je recommande plusieurs ouvrages comme ça à tout hasard. L'obsession américaine, ni Marx, ni Jésus, sur Proust, ou encore le jubilatoire Descartes, inutile et incertain.
Ses mémoires, évidemment.
C'est vous qui avez raison, Pierre Nora. À la technique aujourd'hui, Benjamin Vignal. À la réalisation, François Connac. Assistante, Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. France Culture, il est 20h.